C'est le Super Daily. Super Daily. C'est le Super Daily. Toute l'actu social média servie sur un podcast.
Salut à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de La Broue et vous écoutez Le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, on parle marque de ski française et pour m'accompagner, je suis avec monsieur Camille Poignant. Salut Camille.
Salut Thibaut, salut tout le monde. Les premiers flocons sont tombés sur la France, c'est l'heure d'affûter les cars cette année. On va pouvoir retourner sur les pistes et les marques françaises l'ont bien compris.
Mais tellement hâte. L'année dernière, c'était une année foireuse pour toute une industrie et obligatoirement aussi pour les marques de ski. Et cette année, on espère tous, on croise les doigts très très fort que 2022 nous réserve que des bonnes surprises parce que les Français, ils aiment le ski. 13% d'entre nous déclarons faire du ski chaque hiver. C'est pas rien, hein, surtout qu'on sait que c'est un sport coûteux. Historiquement d'ailleurs, la France est un pays leader sur la scène mondiale lorsqu'on parle de ski. C'est même la destination numéro 1, ça reste la destination numéro 1 en Europe et la deuxième mondiale. Alors sans doute que le Covid aura chamboulé un peu tout ça, mais grosse destination au ski, évidemment, parce que pourquoi ? Parce qu'on a des montagnes, hein. On a des vraies montagnes, les Alpes, on a des collines, les Pyrénées, et forcément, le ski, c'est aussi un business puissant. Chaque hiver, il se vend à peu près 450-500 000 paires de ski en France. Donc c'est quand même pas rien. Et à ce sujet, les Français ils skient français. Voilà, dans le top des marques les plus vendues en France, 5 des 6 premières marques sont françaises. Voilà, Salomon, Rossignol, Dynastar, Wedze, etc. On va en décrypter un certain nombre ce matin parce qu'on va étudier les stratégies social media de ces marques de ski françaises.
Un truc que t'as pas dit, hein. Pourquoi les Français vont fortement à la montagne, hein. Ça a été comme le plan front de mer des années, je ne sais plus, années 36, et en 65, la France a lancé le plan neige qui permettait à tous les Français d'avoir des vacances à cette période-là, d'aller à la montagne, de découvrir des stations, et donc c'est fortement ancré dans notre patrimoine.
Voilà, alors aujourd'hui, les vacances, elles sont encore sur les périodes d'hiver, mais ceci étant, il y a de moins en moins de Français qui vont, hein. C'est coûteux.
C'est vrai.
C'est coûteux, et c'est finalement assez... ça s'adresse les sports de montagne, faut être honnête, s'adresse à une cible qui est assez définie, hein, qui est une cible plutôt aisée, CSP+, l'heure de la grande conso, on va dire, du ski est un peu révolue, hein. C'est coûteux. Allez, si on bascule maintenant sur un certain nombre de marques, par qui est-ce que tu souhaites commencer, Camille?
Eh bien, si tu veux, puisque t'as fait ton classement tout à l'heure, je pense que Salomon est donc un des leaders. On peut parler de Salomon.
Carrément.
Comme ça, on va déblayer et rentrer dans le sujet du ski. Salomon, on connaît tous, hein, les skis Salomon créés en même temps que les stations de ski de première génération où les villages étaient rattachés aux stations. La famille, elle a vu ça et elle a voulu sauter dans l'industrie du ski de loisirs. Aujourd'hui, on sait bien que c'est pas que du ski. Salomon, c'est aussi un empire de la fringue, de Annecy jusqu'à Hong Kong avec un écosystème social media très très vaste. Je vais l'ouvrir rapidement, comme ça on va se rendre compte. Au premier niveau, on a Salomon, @Salomon sur Facebook et Instagram, qui est cross-sport, cross-discipline, Salomon.
Donc ça, c'est le compte officiel de la marque, on peut dire.
Le compte officiel de marque, @Salomon, tout simple. Et puis après, on retrouve quelques comptes pays qui diffusent aussi beaucoup d'UGC et de l'actualité locale. Salomon Espagne, Hong Kong, Chili, Brésil. C'est des pays assez lointains. On retrouve pas cette stratégie-là en Europe qui s'appuie bien sur le @Salomon, au passage, qui parle complètement anglais. Le compte Salomon officiel. Et puis au second niveau, Salomon communique par le biais de comptes métiers pour toucher là des communautés très spécifiques rattachées à une pratique en particulier. Il y en a qui vont nous intéresser, mais on retrouve aussi Salomon Running, Salomon Nordique, Salomon Snowboard, Alpine, Frisky. Vraiment chaque métier qui a fait de Salomon ce qu'il est aujourd'hui a son compte personnalisé.
Ouais, donc attends, ça veut dire qu'ils ont une stratégie qui dit à l'échelle monde, hormis quelques exceptions, pays, peut-être liées à la langue, on a un compte qui est un compte international et après on a un compte chinois, on a un compte...
Voilà, quelques comptes peut-être aussi, si tu regardes du côté de Hong Kong, c'est pour développer de la fringue très particulière, donc ça va dépendre aussi des pratiques de consommation.
Et puis après, des comptes toujours internationaux, mais par discipline, quoi.
Exactement, par discipline. Alors tout ça, ça cause en anglais, donc on a le ski avec Alpine, le snowboard et le freeski qui vont nous intéresser aujourd'hui. Donc c'est la partie montagne, hein. Salomon Alpine, c'est 38 000 abonnés, c'est d'ailleurs un des plus faibles de ce côté-là. C'est l'illustration de la technicité de la marque en montagne. Son compte, il est très nettement marqué compétition et vitesse. Et la marque met en avant vraiment ses ambassadeurs, ses champions locaux. On sent vraiment qu'il y a du sport sur ce compte. C'est pas un compte alpine pour tout le monde. Le mot d'ordre et le hashtag principal sont Sons of a Blast. Si on pouvait le dire, fils d'explosion ou fils d'avalanche peut-être même. Ça illustre très bien cette bio qui est amplifier les sensations et défier la gravité en montagne. Donc c'est vraiment voilà, pour y aller, pour taper dedans. Là, c'est le ski qu'on aime bien.
Tu vois, juste une remarque intéressante, ce hashtag, ce branded hashtag.
Oui.
On a souvent des échanges, nous, ici, avec les marques qu'on accompagne sur la création d'un branded hashtag,
oui,
un hashtag
de marque.
Est-ce
que ça va prendre?
Est-ce que ça va prendre? Est-ce qu'on voit ma marque? Est-ce qu'on comprend ma marque? Et là, le parti pris de Salomon, il est évident. C'est moi, ma marque, elle n'apparaît pas dans mon branded hashtag. C'est comme une signature, c'est comme un claim en dessous de mon logo. Il n'y a pas besoin de rappeler hashtag Salomon quelque chose. Là, Son of a Blast, quoi.
Il est efficace et d'ailleurs il se retrouve sur les skis niveau compétition et assez souvent il est mis en photo sur les skis dans les posts et ils reprennent aussi le hashtag Time to Play qui est la grande campagne de Salomon depuis 5-6 ans. On le retrouve un peu sur tous les comptes, hein. Donc ça c'était pour Alpine, vraiment la partie ski classique et compétition. On a aussi le compte Salomon Frisky, donc là la stratégie de Frisky c'est clairement le ride, le sensationnel et le partage. C'est le plus gros compte lié à la montagne et on sait que le freestyle a pris énormément de proportions. C'est 360 000 abonnés.
Alors, le freestyle et le freeride, hein. Frisky, c'est
freestyle,
un peu les deux. Ouais.
Et exactement, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est bien plus orienté freeride que freestyle, hein. Donc, sur ce compte-là, la bio annonce la bio annonce la couleur. Là, on est sur du free. Hashtag Salomon Frisky. Pour le coup, il y a le hashtag et le nom de la marque. Et ça annonce la couleur dans le fait où c'est beaucoup d'UGC de contenu récupéré pour la communauté. On publie une à deux fois par jour et là tous les formats y passent, de la story, du reels, du carrousel, de la photo, de la vidéo. Clairement, on va mettre beaucoup en avant cette communauté freeride, freestyle, avec quelques petits trucs qui reviennent comme une paire de skis iconiques en avant dans un spot incroyable, mais sinon c'est vraiment un gros mix de tout ce qu'on peut trouver sur les hashtags en UGC. Et puis le dernier qu'on va voir aujourd'hui, c'est la stratégie de Salomon Snowboard. Là, c'est la déclinaison. Il est assez ouf celui-là. C'est la déclinaison de ce qui marche à la ville, transposé à la montagne. Clairement, c'est quasiment de l'art urbain. En tout cas, dans tous les derniers posts qu'on a pu voir, on escalade un vieil immeuble à la montagne et on se jette d'en haut. On est sur de la friche industrielle, non pas en skate, mais en snowboard. Non pas en roller, mais ça peut être aussi en ski ou c'est snow ski qui s'ouvre là. Les produits sont inspirés du graffiti, du street art. Le grain de l'image aussi rappelle un peu les premières caméras embarquées. Je trouve que celui-là, il est vraiment très très street et il essaye de transposer le snowboard à la montagne.
Le skateboard à la montagne,
ouais,
tu veux dire.
Le skateboard,
intéressant.
Il est assez ouf.
Allez, puisque tu parlais de Salomon, on a évidemment envie en face d'aller regarder du côté de l'autre géant du ski français, c'est Rossignol. Rossignol, c'est une marque emblématique du ski en France, hein. La marque, elle est née en 1907. 1907, c'est pas dingue ça? Elle a été créée par un menuisier du nom d'Abel Rossignol. Voilà, en 1907, il y a un menuisier qui crée des skis. Bah oui, c'est comme ça, le ski à l'époque, c'était fait avec des planches en bois.
C'était fonctionnel.
Exact. Et oui, en plus, ça servait à tout simplement peut-être à se déplacer sur un... Pas forcément à kiffer, mais à se déplacer. En 1937, eh bien, la marque gagne son tout premier titre de champion du monde en équipant un skieur qui s'appelle Émile Allais. Voilà, c'est une marque qui est liée aux sportifs, qui a toujours été au cœur des performances aujourd'hui. Et puis aujourd'hui encore, Rossignol, et on va le voir, hein, équipe un certain nombre d'athlètes qui sont classés dans les top mondiaux. Rossignol, concrètement, aujourd'hui, eh bien, c'est un groupe extrêmement puissant qui détient un paquet de marques. Qui détient, par exemple, Dynastar, qui détient les chaussures Lange. Et ça représente à peu près 20% du marché mondial du ski alpin. Mmh. Donc, on a de quoi être fiers, nous, en France, d'avoir un aussi bel acteur. On le sait, maintenant, il est détenu par un groupe international, une holding internationale. Mais ceci étant, voilà, Rossignol, c'est une marque française. Donc, c'est vraiment très cool. Rossignol, qu'est-ce qui se passe sur les réseaux sociaux? Bah là aussi, un peu comme Salomon, c'est une arborescence complexe de comptes. La marque, elle a opté pour une segmentation de ses comptes Instagram par pratique sportive, un peu comme peut le faire Salomon. Par contre, là, il y a vraiment une démarche internationale. Il n'y a pas de compte pays, il n'y a que des comptes internationaux et une segmentation par pratique sportive. Alors, tu as le compte officiel de la marque, @Rossignol, mais aussi ensuite une ribambelle de comptes par pratique. Alors, Rossignol Racing, Rossignol Nordique, Rossignol Freeride, Rossignol Bikes, hein, parce qu'ils font aussi maintenant du vélo, ouais, du cyclisme. Rossignol Woman avec les lignes notamment vêtements plus féminins, Rossignol Snowboard, etc. En tout, la marque alimente plus d'une dizaine de comptes Instagram différents. C'est quand même monumental.
Ouais, c'est costaud.
Et du coup, pas simple de faire cohabiter tout ça quand même. Hein. Et là, Rossignol nous livre un cas d'école de segmentation social media. Je trouve que c'est très intéressant. Nous, on accompagne des marques qui ont aujourd'hui ce genre de sujet, de réflexion de comment je peux segmenter potentiellement ma prise de parole. Bah là, allez jeter un coup d'œil à la manière dont le fait Rossignol. Allez, je vais plonger dans quelques comptes. Le compte Rossignol, @Rossignol, le compte officiel, 231 000 abonnés. En partant du ski, ce qu'on sait de l'histoire de la marque, c'est qu'en partant du ski, la marque a petit étendu son territoire à la mode, hein, un peu comme l'a fait Salomon, et notamment à l'outdoor, voire le streetwear. Et là, le compte officiel arbitre habilement entre les différents segments de marché de la marque. Hein. Toute l'année, on va dire que le focus, il est très, très porté sur les produits textiles pour les outdoor enthousiastes. Donc, on est un peu à la montagne, un peu à la ville. Mais dès que les premières neiges tombent, là, le compte se refocus sur ses fondamentaux ski, pardon, donc à peu près au mois d'octobre. Et évidemment, le compte est tout en anglais. La marque travaille d'ailleurs, tiens, comme Salomon, un hashtag de marque très intéressant qui est hashtag Another Best Day. Là aussi, la marque, elle n'est pas dans le brandy d'hashtag. Prenez note, les amis, hein, c'est une signature. Et ce brandy d'hashtag, on compte quand même 102 000 publications derrière. Donc, il est utilisé, hein, il génère de l'UGC, c'est quand même très cool.
C'est costaud, hein, 100 000.
Ça, c'est le compte Rossignol officiel. Après, derrière, allez, t'as les comptes de discipline, @Rossignol Racing, 79 000 abonnés. Ici, on parle ski de pistard. Hein. Ça sent la combinaison en lycra, le fart, tu vois, l'ambiance. Hein. C'est quand même très, très performance. D'ailleurs, c'est le pilier de contenu de ce compte, la performance, avec un gros focus sur les performances sportives, les athlètes. On parle de Coupe du Monde, on parle de Coupe de ski, de coupe de ski, etc. C'est très, très tourné performance. Autre compte, @Rossignol Nordics. Bah oui, il y a aussi le ski de fond, hein, c'est une discipline du ski, 31 000 abonnés. Et même chose ici, un gros focus sur les athlètes. Franchement, de ce côté-là, je trouve la volumétrie de contenu absolument hallucinante. Un post par jour depuis la saison d'hiver sur @Rossignol Nordics, c'est quand même énormissime. Alors on se dit oui, mais ils ont, je sais pas, une team d'athlètes aux quatre coins du monde, oui. Donc ça doit être facile parce qu'ils ont énormément de contenu qui leur parvient. Nous, on sait que c'est pas si simple. T'as beau avoir un pool d'athlètes énorme, eh bien récupérer ce contenu, oui, le mettre en scène, le distiller dans un planning éditorial, chapeau au social
media. À l'humain qui est derrière.
À l'humain qui est derrière, parce que c'est une logistique, c'est un vrai travail éditorial solide. Hein. Donc bravo à toi qui est derrière le compte, @Rossignol Nordics. Le compte @Rossignol Freeride, 57 300 abonnés. Là, on est dans le pur inspirationnel. J'aime beaucoup leur bio, hein, qui dit à mon avis à peu près tout de cette nouvelle pratique frisky, hein, dont on parle beaucoup. Le compte, il dit « We don't freeride, we ride free ». Voilà, c'est ça. Je trouve que
ouais, c'est
habile.
C'est joli.
Joliment dit. Et là, si tu veux kiffer, bah, tu vas directement dans les Reels. Ça donne envie de s'offrir quand même quelques belles descentes drées dans le pentu avec beaucoup de puff. D'ailleurs, juste un petit détail qui, moi, a attiré beaucoup mon attention. Jette un coup d'œil au stat de lecture. Entre les différents formats vidéo de ce compte Rossignol Freeride. D'un côté, tu vas le voir, tu as l'onglet vidéo classique, et puis de l'autre côté, tu as l'onglet Reels. Et si tu avais encore un petit doute sur la puissance du format Reels aujourd'hui algorithmiquement dans Instagram, ben là, tu peux être convaincu du fait qu'il faut mettre tes billes de ce côté-là x4 à peu près, x10, pardon, en termes de nombre de lectures entre un format classique vidéo et un format Reels aujourd'hui sur le compte Freeride de Rossignol. Donc quand même, c'est quand même plutôt là qu'il faut mettre ses billes aujourd'hui en production vidéo. Et allez, pour finir sur Rossignol, je me suis allé jeter un petit coup d'œil aussi sur d'autres plateformes, évidemment. Ils sont à peu près partout, hein. Ils sont évidemment sur Facebook. Ils sont aussi sur YouTube. Alors, sur YouTube, c'était pas forcément le plus intéressant, je trouve.
Oui, c'est du stockage, quoi.
Voilà. Mais par contre, sur TikTok, voilà, ils sont sur TikTok, Rossignol, et ils ont un compte qui cartonne, où ils ont à peu près 100 000 abonnés aujourd'hui sur ce compte, 2,4 millions de j'aime autour de leur contenu. Donc ils sont pas en train de débuter, hein, ils sont installés là sérieusement, Rossignol, sur TikTok. Évidemment, le compte est très installé à l'international, hein, c'est TikTok, et ils ont aussi tranché immédiatement en disant nous, on va mettre du ski. C'est ça qu'on va faire sur TikTok. On en a déjà parlé ici. Quand tu vas sur TikTok, qui écoutez notamment une marque comme ça, multi-segment, il faut choisir. Il faut choisir ton positionnement, il faut segmenter, sinon tu vas être trop large et tu vas pas réussir à capter les audiences. L'algorithme a besoin que tu sois très précis. Et d'ailleurs, ils le disent très clairement sur leur bio TikTok qui, moi, me fait marrer. Il y a marqué CEO of hashtag SkiTok. Donc, eux, ils se positionnent comme les boss du hashtag SkiTok sur la plateforme TikTok. J'aime bien ce parti pris un peu bold comme ça, c'est bien vu.
C'est assez intéressant. Tu parles de TikTok. J'ai complètement oublié de te faire la partie Salomon sur TikTok. Bien sûr, hein, les deux gros concurrents se retrouvent dessus. Je sais plus combien tu m'as dit d'abonnés. Là, chez Salomon, on est à 102 000 abonnés.
Oh, la battle est forte parce qu'il y a 100 000 du côté de Rossignol.
On est au coude à coude. Par contre, chez Salomon, c'est pas tout à fait le même parti pris. Donc, déjà, c'est une bio classique qui ouvre vers on design des skis, des snow et de l'outdoor depuis 1942, très classique. Par contre, on est dans le sensationnel, même si on a tenté un petit peu quelques postes d'ancrage local, on est dans le sensationnel, mais dans toutes les disciplines, que ça soit du snowboard, du ski, de la course à pied. Donc là, ça reprend
donc angle
tout.
Un petit peu plus corporate, multidisciplinaire.
Voilà, angle multidisciplinaire. En même temps, t'as du roller, t'as encore plein de choses qui se font autour de chez Salomon. Donc voilà, ils ont utilisé TikTok pour tout ça. Ça fonctionne aussi. Je vais te parler, moi, de Dynastar, Thibaut.
C'est pourquoi je dis ah.
Parce que ça vient de Salange.
Mais oui, ça vient de chez moi. Voilà, je suis. Voilà, vous le savez, hein, j'en fais pas mystère. Hein, vous l'aurez compris, vous qui nous écoutez. Bah oui, je suis évidemment, je suis au Savoyard, voire même je suis à côté. Je viens d'à côté de Salange. Donc Dynastar, pour moi, bah c'est comme pour un quelqu'un de Clermont, tu vois, Michelin. Dynastar, c'est le bastion local, quoi.
C'est là où nos auditeurs comprennent que tu n'as rien pris, mais simplement que t'es transcendé par le sujet de ce podcast.
Totalement. Non, mais Dynastar, moi, blague mise à part, Dynastar, je me suis levé tous les matins sur le chemin de l'école en voyant un énorme panneau de Dynastar, parce qu'on passe devant l'usine Dynastar.
Je vois des petites moustaches tes yeux, Thibaut, puisqu'on parle là de la marque à la moustache. Alors, j'ai jamais fait le rapprochement. C'est vrai que ce petit quart d'étoile là, c'est une moustache, voilà, a priori. Donc, il y a deux comptes principaux qu'on peut retrouver sur Instagram, Dynastar Ski, 67 000 abonnés. Sur Facebook, Dynastar tout court, 130 000 abonnés. Là, on va parler d'une des grandes des grandes autres célébrités des pistes, la marque à la moustache, un pur produit français comme la moustache, qui vient de Salange, qui est le fruit de la collaboration entre Starflex et Dynamic. Voilà, j'étais très heureux de le placer. La fierté de Dynastar, c'est le Made in Mont Blanc Valais et sa propriété, sa proximité avec la montagne. Mais pour autant, Dynastar se veut international et parle en anglais à ses abonnés, comme ses concurrents, comme on a pu le voir avant. Dans son contenu, on retrouve évidemment l'attachement au Made in Chamonix, au Made in Salanches, au Made in Mont-Blanc, avec depuis cette année du contenu atelier où l'on montre le tour de main, on montre de l'humain. Depuis septembre, on a vu apparaître une grosse session d'ancrage local où on voit du matériau, des mains qui travaillent, de la spatule, du ski qui est en train de se faire fabriquer. On a pas parlé de ça sur les autres comptes, hein, mais on en retrouve aussi. C'est bien évidemment le meilleur moment, c'est en septembre ou fin août où on commence à préparer les productions.
On parle savoir-faire, on dit regardez.
On parle savoir-faire. Et puis c'est très tendance quand même. Moi je suis remonté dans le compte, il y avait pas ça avant. Ouais. C'est clairement quelque chose que les marques font beaucoup depuis deux ans. Et puis ben partout ailleurs.
Avec une complexité, si tu me permets, c'est ces marques et notamment Dynastar ont délocalisé petit à petit beaucoup de leurs productions, ce qui à l'échelle de notre région en Haute-Savoie avait fait quand même grand bruit, parce que c'est un gros ancrage local. Donc quand tu commences à virer des gens et à délocaliser, ça pose problème. Donc peut-être qu'ils se sont fait discrets sur ce sujet savoir-faire, mais encore aujourd'hui effectivement il y a de la fabrication au pied du Mont Blanc à Salange.
Et donc ça, ils peuvent l'utiliser, le mettre en avant, et puis partout ailleurs sur ce compte, on va pas rentrer exactement dans le détail de tout ce qu'on a vu, mais il y a beaucoup de skieurs pro, de superbes images, et on peut constater que dans cette grille Insta depuis quelques mois, tous les produits Insta sont là aussi représentés. On a une stratégie de reel hebdomadaire, des carousels, bien sûr de l'UGC à foison. C'est un beau moyen de montrer la marque et ses utilisateurs. Ils ont un grand bac à contenu avec ici un hashtag WeLiveSkiing par la marque qui contient 14 000 posts, publications qu'ils peuvent utiliser, piocher. Peut-être que demain on écrira les hashtags sous les skis directement, comme le fait Salomon avec son fils d'explosion. En tout cas, voilà, il y a énormément de choses. C'est un très très beau compte et je suis tombé sur un compte. Alors, Je sais pas pourquoi je t'en parle, hein, puisque c'est une page Facebook hein, qui est morte trop tôt. Mais je trouvais ça intéressant. Pour le coup, c'est la Dynastar Test Center. C'est une page qui regroupe en fait trois lieux de test que possède Dynastar au Grand Montet, à Argentières et à Chamonix-Mont-Blanc, où les gens peuvent venir.
Hop.
Chamonix.
Merci.
Ok, on coupera au montage.
Voilà, ne dites jamais.
À Chamonix-Mont-Blanc, où les gens peuvent venir tester le matériel en conditions réelles. Et je trouve que c'est une belle vitrine de pouvoir contacter les gens sur Facebook et montrer ce nouveau matériel à tester. Voilà.
Bien sûr, là, on est les phases de test, on va dire, viennent de se terminer. C'est un temps fort hein, pour toutes les marques de ski, effectivement, les tests en station. Donc, certaines ont des showrooms dans les hotspots de test. Les Grands Montets, notamment, c'en est un. Et justement, là, j'ai très envie de te parler de Deneria. Voilà, Deneria, je sais pas si tu connais, connaissais.
Je connais Antoine Deneria. Est-ce que ça a un
mais
rapport?
Mais voilà. Deneria. Oui. Deneria, c'est une jeune, marque de ski française qui a été créée par Antoine Deneria. Et vous remarquerez que Deneria, il y a un Z à la fin. Ça ne se prononce pas, chers amis. Voilà, comme ça, vous le saurez. Antoine Deneria, eh bien, il est haut savoyard, et champion olympique de descente en 2006 à Turin. Il a aussi gagné 3 Coupes du Monde de ski, hein, quand même. C'est une légende du ski de descente français, hein, tout simplement. C'est vraiment un des très grands du ski de descente français. Et en 2018, eh bien, il a créé la manufacture Deneria avec le projet dingue, eh bien, celui de créer une marque de ski fabriquée en France, fabriquée en Haute-Savoie. Et rien que de le dire ça en 2018 à l'époque, franchement, c'est risqué, c'est pas rien de le dire. Il faut avoir du courage alors que tout le monde délocalisait ailleurs en Europe, voire ailleurs dans le monde, parce que ça coûte cher de fabriquer du ski. Et lui, son projet, eh bien, c'est de produire des skis haute couture assemblés à la main. Il part vraiment sur cette idée-là. Et quand je dis haute couture, je déconne pas. Hein. Les skis Deneria, c'est fabriqué juste à côté d'Annecy. Chaque paire demande 15 jours de fabrication et se vend entre 2000 et 3000 euros. Donc, c'est pas donné à tout le monde hein, de s'offrir des skis Deneria. Mais à ce prix-là, eh bien, ils sont très beaux, les skis Deneria. Ils sont très beaux.
Ils sont vraiment stylés.
Ils sont très beaux, mais ils sont forcément un peu confidentiels, hein. C'est 6000 personnes qui suivent la marque sur Facebook et Instagram. Allez jeter un coup d'œil sur le compte Instagram Deneria_ski si vous voulez voir à quoi ça ressemble un ski fait à la main. C'est quand même quelque chose hein. Et du coup il y a un gros focus sur le fait main sur leur compte Instagram hein. Gros focus sur la fabrication. C'est vraiment ouf de voir comment les skis sont faits hein. On est tout à fait dans l'ébénisterie d'art.
Ouais.
Concrètement t'as des troncs qui arrivent et ils se transforment en ski hein, si je schématise. Il y a du bois brut, il y a du copeau, il y a de la colle hein. Il faut coller tout ça.
Il y a des espèces de textiles, on ne sait pas ce que c'est et quand on n'est pas...
Il y a des textiles techniques. Et si vous voulez voir comment on fabrique un ski à la main, bien là, le compte Deneria Ski, c'est vraiment l'endroit pour aller voir ça. C'est très, très beau. Je trouve que c'est assez kiffant à regarder. Autre pilier de contenu du compte Deneria Ski, bien Antoine Deneria, forcément le fondateur. La marque, elle utilise très habilement l'image de son fondateur. Antoine Deneria, c'est vraiment un bon gars. Hein. C'est un enfant du pays, super passionné. Et ça sent, et la marque capitalise sur la personnalité un peu hors du commun de cet athlète-là. Elle a d'ailleurs produit, Deneria Ski, un web documentaire que je trouve passionnant. Ça a été fait avec Ski Chrono et la marque Fusalp. Ça s'appelle Ski Héritage. Voilà, ça dure 13 minutes. Et en 13 minutes, on découvre toute l'histoire du projet Deneria. Je trouve ça vachement bien fait. C'est très chouette. Là aussi, il y a beaucoup d'humains. Franchement, pour moi, au Savoyard, moi, enfant du pays, je me retrouve tout à fait dans ces images là, il y a le papy avec le béret.
La main sur le cœur.
J'ai la main sur le cœur. Je suis à deux doigts de chanter les allobroges. Et là, tu vas voir comment, encore une fois, comment les skis sont fabriqués à la main. Le rôle aussi d'Antoine dans la conception, c'est passionnant. Je trouve aussi très cool que là, la marque d'Antoine Deneria se soit appuyée sur un co-branding pour produire cette vidéo. On sait que c'est coûteux hein, de produire cette typologie de vidéo. Donc là, il y a Fusalp derrière. Je serais curieux de savoir comment c'est goupillé, on va dire, ce co-branding. Et encore une fois, la présence de marque de Deneria Ski sur les réseaux sociaux, c'est aussi beaucoup d'humains, mais de mon point de vue, il manque juste peut-être un petit truc. Allez, si je peux me permettre, on ne voit pas suffisamment les skis. Je l'ai dit, les skis Deneria, ce sont...
Tu veux dire les skis dans la neige ?
on voit pas suffisamment le produit. Moi, je veux voir des gros plans, je veux voir la macro, je veux voir ce qui se passe. Un ski d'Eneria, c'est quasiment une œuvre d'art, hein. Faut quand même le dire ça. C'est beau comme une valise Louis Vuitton, c'est précis comme une montre suisse. Et je trouve que là, aujourd'hui, la marque, elle manque de contenu de ce côté-là, de vraiment voir le produit fini. Parce que quand j'achète un ski d'Eneria, évidemment, j'achète un ski qui est performant. Mmh. Évidemment, j'achète un ski qui va m'offrir des sensations. Mais surtout, le fruit du savoir-faire français, d'une expertise. Et ça, j'aimerais voir davantage de détails là-dessus.
On a quelques très belles photos, hein, macro justement de ces skis. C'est vrai qu'il y en a peu. Et quand on les voit, hein, tu sais, posés sur cette piste qui vient juste d'être damée, là, c'est magnifique. C'est vrai que souvent, ils ont tendance à être un peu trop loin dans le champ. Et du coup, on voit un ski classique de loin. Alors que quand il y a des photos très macro, elles sont vraiment magnifiques. C'est très stylé. Et un point commun aussi à toutes ces marques, hein, qu'on retrouve, alors peut-être juste l'histoire de ces marques, c'est quand même les Jeux Olympiques et les Championnats du Monde qui ont fortement participé à toutes ces belles histoires. Hein. On retrouve souvent, hein, j'ai lu plein d'histoires de marques de ski, les Mondiaux de Portillo en 66 ou encore les Jeux Olympiques d'Albertville en 92 et qui ont été un tournant pour elles parce que les athlètes les ont portés et c'est une époque où on pouvait encore faire exploser une marque grâce à des athlètes sur la télé, sur les grands médias. Et du coup, c'est super intéressant de voir comment ils sont restés autour de cet ancrage local.
Voilà les amis, écoutez, petit tour d'horizon, on va dire, de quelques marques françaises coup de cœur. Il y en a plein d'autres, hein. Il y a plein de marques, il y a des marques plus confidentielles qu'on adore aussi. Et puis il y a d'autres grosses marques. On aurait pu parler de Wedze. Voilà, on a choisi ce matin de décrypter les stratégies social media d'un certain nombre de marques. On serait ravis de continuer à en échanger avec vous. @supernatif sur les réseaux sociaux.
Sur Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Pinterest ou sur les pistes de ski même si vous voulez.
Voilà, pourquoi pas. Merci à vous tous de nous écouter si nombreux chaque matin. Ça nous fait chaud au cœur. Là, vous êtes nombreux en ce moment à nous envoyer vos fameux Spotify Wrapped, comme le veut la tradition. Tu sais, ces petits. Voilà, on en a plein, on en reçoit plein. Story, ça nous fait chaud au cœur. Merci, merci beaucoup. Et les amis, on se retrouve lundi, hein, 9h du matin, ici même en direct sur Twitch ou sur Spaces, ou évidemment dans vos oreilles dès 10h du matin.
Donc, passez un très bon week-end.
Salut à tous.
Ciao.
Ciao.